Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 6 octobre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Remaniement du gouvernement en Éthiopie. Le premier ministre Abiy Ahmed a nommé un nouveau ministre de la Défense sur fond d'enlisement de la guerre au Tigré. En Côte d'Ivoire, rencontre aujourd'hui entre les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédier. La rencontre intervient quelques jours avant la création du nouveau parti de Laurent Gbagbo. Google ambitionne d'injecter $1 milliard sur le continent africain. L'investissement servira entre autres à fournir l'Internet haut débit et à relier le continent à l'Europe. Ici aux États-Unis, les démocrates du Sénat vont réessayer aujourd'hui d'étendre la capacité d'emprunt du gouvernement américain pour éviter un défaut. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé aujourd'hui la formation d'un nouveau gouvernement. Cette équipe est marquée par les remplacements des ministres de la Défense et de la Paix sur fond d'enlisement de la guerre dans la région du Tigré. Les précisions avec Marius Mounga.
Abiy Ahmed a nommé au ministère de la Défense Abraham Bele, qui occupait depuis mai le poste de chef du gouvernement régional par intérim au Tigré et qui est natif de la région. Binalf Andoualem, un ancien responsable de la région Amhara, dirige désormais le ministère de la Paix, clé dans les opérations humanitaires menées au Tigré, où des centaines de milliers de personnes sont en situation de famine selon l'ONU. Le ministère de l'Eau, chargé du dossier très sensible de méga-barrages construits par l'Éthiopie sur le Nil, à l'origine des tensions avec l'Égypte et le Soudan, a également été remplacé. Monsieur Abiy s'est par ailleurs félicité que 3 nouveaux membres du gouvernement viennent des partis d'opposition, affirmant sur Twitter que cette décision reflète un engagement à l'inclusion. Ce nouveau gouvernement a été approuvé par une majorité des votes à la Chambre basse du Parlement. Arrivé au pouvoir en 2018 après une vague de manifestations antigouvernementales, M. Abiy a été réinvesti lundi pour 5 ans à son poste après la victoire écrasante de son parti aux élections législatives du 21 juin.
Le Conseil de sécurité de l'ONU tient aujourd'hui une réunion d'urgence, la deuxième en moins d'une semaine, sur l'expulsion récente de 7 responsables onusiens d'Éthiopie, une décision qui a provoqué un traumatisme au Conseil de sécurité, où des diplomates craignent la création d'un précédent pour d'autres théâtres de conflit. L'ONU considère que déclarer ses fonctionnaires onusiens persona non grata est illégal, car contraire à plusieurs articles de la Charte des Nations Unies. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a rendu visite à son prédécesseur Henri Konan Bédier, ce jour à son domicile à Cocody, un quartier d'Abidjan, après son retour d'un séjour de 2 semaines passées en Europe. Compte rendu VOA Africa Abidjan, Aïcha Diara.
Ce n'était pas une rencontre officielle, mais juste fraternelle à cause du deuil qui touche la grande famille du PDCI avec le décès de Charles Konan Bani, l'ex-premier ministre ivoirien et membre actif du PDCI, le parti d'Henri Konan Bédier, le 10 septembre dernier, à l'âge de 78 ans. Bani est mort des suites de complications pulmonaires et respiratoires liées au COVID-19. Accompagné d'une délégation composée de son épouse Nadi Bamba et des camarades politiques tels que Asso Adou, Laurent Akoun, Sébastien Danon Djedje et Odette Lorugnon, Laurent Gbagbo est arrivé autour de 11h30 au domicile d'Henri Konan Bédier.
Le président Bédier est en deuil. Nous sommes venus le saluer. Nous sommes venus lui présenter nos condoléances. Et nous disons que nous sommes à sa disposition pour le reste du déroulement de funérailles.
Lors de cette visite, Henri Konan Bédier avait à ses côtés son épouse Henriette Bédier, Alakwa Diorémi et Maurice Kakou Djikawi. Laurent Gbagbo, qui a abandonné le FPI, prépare pour les jours à venir la formation de son nouveau parti politique. Aïcha Diara, Abidjan, pour VOA Afrique.
L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade s'est dit prêt à mettre la villa qu'il occupe actuellement à Dakar à la disposition de l'ancien président guinéen Alpha Condé, renversé par un putsch le 5 septembre. Il se dit convaincu que son successeur Macky Sall ne verra pas d'inconvénient à sa proposition, malgré les relations tendues entre messieurs Condé et Sall. La présidence sénégalaise n'y avait pas réagi mercredi. La junte en Guinée a affirmé le 17 septembre qu'Alpha Condé, détenu depuis le coup d'État dans un lieu tenu secret et dont la communauté internationale réclame la libération, est et demeurera en Guinée. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtam Lamamra, a imputé à une faillite mémorielle de la part du président français Emmanuel Macron les crises diplomatiques qui opposent la France à son pays au Mali, selon des propos diffusés par la télévision malienne. Ramtam Lamamra a aussi affirmé la nécessité pour certains dirigeants étrangers de décoloniser leur propre histoire, selon ses déclarations diffusées mardi soir après ses rencontres avec les dirigeants de transition maliens à Bamako. Les autorités maliennes ont de leur côté convoqué mardi l'ambassadeur de France à Bamako pour exprimer leur indignation après les critiques très vigoureuses de M. Macron à la suite du discours de M. Maïga à l'ONU. Brazzaville a démenti mercredi toute implication du président congolais Denis Sassou Nguesso dans l'affaire des Pandora Papers sur la dissimulation d'avoir dans des sociétés offshore. Denis Sassou Nguesso figure parmi plusieurs centaines de responsables politiques accusés par une enquête du consortium international des journalistes d'investigation ICIG intitulée Pandora Papers d'avoir dissimulé des fonds dans des sociétés offshore. Cette enquête précise que le président congolais a détenu pendant près de 20 ans une société offshore dans les îles Vierges britanniques. Le géant américain des technologies, Google, a annoncé mercredi un plan d'investissement d'$1 milliard sur 5 ans pour le continent africain. Sur ce marché, il promet à la population jeune un accès plus rapide et abordable à Internet, ainsi qu'un soutien financier aux startups locales. Les détails avec Nani Talani.
Je suis ravie de réaffirmer notre engagement envers le continent en investissant $1 milliard sur 5 ans pour soutenir la transformation numérique de l'Afrique, a déclaré le PDG de Google, Sundar Pichai. L'investissement comprendra l'installation du câble sous-marin Equiano destiné à transporter Internet haut débit et à relier le continent à l'Europe. Le programme prévoit également la location des prêts à faible taux en faveur des petites entreprises locales, ainsi que des prises de participation dans des start-up africaines. Le directeur général de Google en Afrique est fermement convaincu que personne n'est mieux placé pour résoudre les grands problèmes de l'Afrique que les jeunes développeurs et créateurs de start-up. Nitin Gajria estime que le continent est un marché prometteur. Soulignant d'énormes progrès ces 10 dernières années en matière de connectivité, le PDG Pichai reconnaît qu'il y a encore du travail à faire pour rendre Internet accessible, abordable et utile pour chaque Africain. Moins d'un tiers des 1,13 milliard d'Africains sont actuellement connectés à Internet haut débit, selon la Banque mondiale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden rencontre cet après-midi les dirigeants de banques et d'entreprises pour discuter des efforts du Congrès pour relever le plafond de la dette. Au Sénat, les démocrates tentent d'éviter un défaut de paiement qui pourrait intervenir le 18 octobre si rien n'est fait. Abdourahman Dia.
Les démocrates du Sénat vont réessayer ce mercredi d'étendre la capacité d'emprunt du gouvernement américain pour éviter un défaut. Sur surprise, le vote prévu cet après-midi devrait échouer car les démocrates auront besoin du soutien d'au moins 10 républicains. Mitch McConnell, le chef de la minorité républicaine, a demandé aux démocrates d'agir seuls pour augmenter le plafond d'emprunt de 28 000 milliards de dollars, les forçant à utiliser une manœuvre parlementaire différente qui ferait sauter le verrou des 60 votes requis au Sénat. Le président Joe Biden a suggéré que les démocrates, qui disposent d'une très courte majorité au Congrès, pourraient modifier les règles pour contourner le barrage républicain. Chuck Schumer, le chef des démocrates au Sénat, a averti que la menace même d'un défaut de paiement des États-Unis pourrait pousser les agences financières à abaisser très bientôt la note du pays. Les États-Unis n'ont jamais fait défaut, mais en 2011, sous l'administration Obama, l'impasse politique avait conduit l'agence de notation Standard & Poor's à retirer la note AAA à la dette américaine, provoquant une onde de choc sur les marchés internationaux.
Le prix Nobel de chimie 2021 a été attribué mercredi à l'Allemand Benjamin List et à l'Écossais David McMillan pour le développement de l'orgocatalyse asymétrique, un outil ingénieux de construction moléculaire qu'ils ont découvert chacun de leur côté en 2000. Leurs travaux ont exercé un impact considérable sur la recherche pharmaceutique et ont rendu la chimie plus verte, souligne l'Académie royale suédoise des sciences dans son communiqué. Le pape François a exprimé aujourd'hui au Vatican sa honte, répétant plusieurs fois ce mot en présence d'évêques français au lendemain de la publication d'un rapport accablant sur la pédocriminalité au sein de l'Église de France. Je désire exprimer aux victimes ma tristesse, ma douleur pour les traumatismes subis et aussi ma honte, notre honte, ma honte pour une trop longue incapacité de l'Église à les mettre au centre de ses préoccupations, a-t-il affirmé au cours de son audience générale hebdomadaire. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Rosine Munizero.
En RDC, la note dans le classement des pays selon l'indice dans gouvernance des ressources naturelles a baissé avec une note de 36 sur 100 selon l'édition 2021 du rapport Natural Resource Governance Institute. Les composantes gestion de revenus et conditions générales de gouvernance sont celles qui plombent le score général de la RDC, mesurant pour l'un la redistribution des recettes au niveau infranational et pour l'autre la qualité générale de la gouvernance du pays. Le conseil d'administration de Shelter Afrique, institution panafricaine de financement et de développement du logement, a approuvé la création d'une société de logement à Yaoundé, au Cameroun. Dénommée Industrial Housing Corporation, le projet est estimé à 15 millions de dollars, soit 8,5 milliards de francs CFA. La société produira des matériaux de construction et d'autres équipements associés dans le but de promouvoir des programmes de logements sociaux décents à grande échelle à travers le Cameroun. L'ESCOM, compagnie électrique sud-africaine, est désormais le premier émetteur mondial de dioxyde de soufre, SO2, selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air propre. En 2019, la compagnie a émis 1600 kilotonnes de ce gaz qui expose les populations environnant les lieux d'émission aux arrêts cardiaques et à l'asthme. Alors que plusieurs pays ont réduit leurs émissions de SO2, l'ESCOM n'a réalisé cette opération que pour 15% de ses infrastructures.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Les matchs des 3e et 4e journées des qualifications au Mondial 2022. Zone Afrique débute aujourd'hui. Deux rencontres au programme. Le Soudan joue la Guinée et le Maroc reçoit la Guinée-Bissau. Le capitaine de l'équipe d'Italie, Giorgio Chiellini, a assuré hier avoir eu honte après les insultes racistes ayant visé le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, dimanche à Florence, après la victoire contre la Fiorentina 2-1. « J'ai eu honte en tant qu'Italien et en tant que Toscan », a déclaré le défenseur de la Juve lors de la conférence de presse du match qui oppose ce soir en demi-finale de la Ligue des Nations. L'Italie à l'Espagne, la Fiorentina, s'est excusée auprès de Kalidou Koulibaly, qui a été visé tout comme ses coéquipiers nigériens, Victor Osimhen et Camerounais, Frank Zambo Anguissa. En Allemagne, l'Union Berlin a décidé de bannir un supporter ayant proféré des insultes antisémites envers les supporters du Maccabi Haïfa. Jeudi dernier, en Ligue Europa Conférence, c'est ce qu'a déclaré le président du club berlinois de football. La police allemande et l'UEFA ont chacune ouvert une enquête après que des supporters de Haïfa ont affirmé avoir été insultés et menacés par certains fans de l'Union pendant le match entre les deux équipes. Dirk Ziegler affirme qu'un des auteurs de ces actes identifiés a été banni de l'accès à toutes les infrastructures du club et de ses matchs pour une durée illimitée. Le dirigeant ajoute que l'Union a déposé auprès de la Fédération allemande de football une demande d'interdiction nationale de stade pour cet individu. Basketball, on ne le verra plus sur les parquets. À 41 ans, l'Espagnol Pau Gasol met un terme à sa carrière de joueur professionnel. Le géant catalan de 2,16 m a presque tout gagné en Espagne sous les couleurs du FC Barcelone, puis en NBA et même sur le plan international où il a bousculé avec les Ninos, les invincibles américains lors des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin et de 2012 à Londres, sans jamais réussir à glaner l'or. Néanmoins, l'aîné des fers Gasol a mené l'Espagne vers un sacre mondial, 2 médailles d'argent olympique, 3 titres européens et a effectué un parcours remarquable dans le championnat NBA qu'il a remporté 2 fois en 2009 et 2010 avec les Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, à qui il a rendu un émouvant hommage.
Je voulais faire une mention spéciale à mon compagnon Kobe Bryant.
Et je voudrais aussi faire une mention spéciale à Kobe Bryant, que j'aimerais beaucoup voir ici, mais c'est la vie. Il nous manque beaucoup. Ainsi qu'à sa fille Gigi, mais il m'a appris à être un meilleur leader, un meilleur compétiteur. Ce que signifie être un vrai gagnant, Alors à part ça, je l'ai toujours considéré comme un grand frère. Alors merci Kobe.
Siempre lo he considerado como un hermano mayor. Así que gracias Kobe.
Pau Gasol, ancien basketteur professionnel.
Page des sports signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. C'est la consternation en République centrafricaine. Plus d'une trentaine de civils, dont des enfants, ont été tués hier par des hommes armés dans le centre du pays. Le drame s'est produit entre Bambari et Alindao. Les victimes étaient à bord d'un camion de transport en commun. Le gouvernement, la population, la MINUSCA, tous se disent choqués. Retrouvons à Bangui pour VOA Afrique notre correspondant Freeman Sipila.
La consternation est grande en République centrafricaine. Selon les premières informations, le véhicule ciblé est un camion de 18 roues transportant des marchandises et des passagers. En effet, aux environs de 14 heures temps universel, des hommes armés, membres présumés de l'UPC, un des groupes armés de la rébellion de la CPC, ont attaqué par surprise un camion de véhicules de transport en commun en partance pour Bangassou via Alindao. Au micro de nos confrères de la radio locale de Bambari, un blessé raconte.
C'est des CPC qui nous ont arrêtés, puis ils nous ont fuyés. Après, ils ont brûlé les camions et brûlé deux motos. Et ensuite, ils nous ont tiré dessus à bout portant. Ils nous ont attachés par terre, ligotés. Ils ont tiré sur nous à bout portant. Il y avait des morts, des enfants, des femmes. Moi-même, j'ai reçu le balle sur mon épaule, mon bras gauche. Et Dieu merci, je suis encore à vie.
Le bilan est lourd, plus de 30 morts, des blessés et le véhicule calciné, selon Abel Matipata, maire de Bambari.
D'après le bilan qui nous a été communiqué, il paraît qu'il y a une trentaine de morts et 6 blessés. Et il y a aussi des taxis moto également. C'est un bilan extrêmement très lourd. Donc on nous parle d'une trentaine de morts et plus de 6 blessés. Certains corps sont déjà ramenés au niveau de l'hôpital régional universitaire de Bambari.
Plusieurs corps transférés à Bambari ont été enterrés ce mercredi. Comment comprendre cette violence contre des civils? Selon certains analystes de la vie politique centrafricaine, il s'agirait d'une pression de la CPC pour intégrer le prochain dialogue républicain. Une position qui passe mal à Bangui. Serge Diori, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.
Même si c'est une position politique, mais on n'est pas obligé de tuer pour pouvoir exprimer sa position politique. Mais si vous tuez tout le monde, qui vous allez diriger si jamais c'est une position politique? Le gouvernement tout entier, le peuple centrafricain aussi est très stupéfait par rapport à la situation, mais nous demandons au peuple centrafricain de rester calme.
De son côté, la MINUSCA dénonce un crime inadmissible et demande l'ouverture d'une enquête. Vladimir Monteiro, son porte-parole.
La MINUSCA condamne avec la plus grande fermeté l'attaque contre un convoi survenu mardi 5 octobre dans la localité de Machika, à 15 km de Bambari, dans la préfecture de l'Awaka, ayant occasionné la mort de civils et des blessés. La MINUSCA appelle le gouvernement à diligenter une enquête sur cet incident ignoble et inqualifiable afin que ses auteurs soient identifiés et répondent de leurs actes devant la justice.
Depuis le début des opérations de l'armée centrafricaine et ses alliés russes en février dernier contre les rebelles de la CPC, c'est la première fois que ces hommes armés font parler d'eux à travers une tuerie dans la préfecture de l'Awaka, dans le centre de la République centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Nouvelle tension entre la France et le Mali. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a invité les autorités françaises à la retenue en évitant des jugements de valeur après les propos qualifiés de regrettables du président français à l'encontre de la junte militaire au pouvoir. Emmanuel Macron a appelé mardi à ce que l'État revienne au Mali. Dans le même temps, alors que la France tente de réduire son dispositif militaire dans le pays, le commandant de la force Barkhane a affirmé qu'il y avait une étroite collaboration avec les forces maliennes. Pour décrypter ces signaux mitigés, Claire Morin-Gibou a joint à Ouagadougou le consultant et doctorant en sciences politiques, Abdoulaye Bari.
c'est la suite logique de la brouille diplomatique née entre Bamako et Paris depuis le discours donc du Premier ministre malien à l'ONU il y a quelques jours, disant que la France a abandonné donc le Mali à plein vent. Après ça, bien évidemment, on a vu donc la réaction de la diplomatie française, d'abord à travers la ministre de l'Armée qui parle de honte. Et finalement, le président français qui vient s'embourber avec des mots très, très, très forts pour qualifier donc le discours du Premier ministre malien de très honteux. Évidemment, on est dans cette suite logique de passe d'armes verbales entre Paris et Bamako, parce que Bamako voulant donc désormais signer un accord avec la société de sécurité privée plus Wagner, la France voulant pas cette option parce qu'elle estime que Wagner est une société privée qui est une société des mercenaires. Mais pourquoi les Maliens décident aujourd'hui de faire appel à Wagner? Il faut dire que c'est le résultat d'une impasse depuis 2014 dans la lutte contre le terrorisme, où la France a déployé ses forces donc au Sahel. Parce que le terrorisme n'a pas reculé, au contraire, il s'est aggravé, touchant à d'autres pays de la région, notamment le Mali, et le Niger et le Burkina. Donc pour les Maliens, il n'y a pas de résultat dans la lutte contre le terrorisme. Ça intervient dans un contexte très particulier aussi, le sentiment anti-français qui se développe à la fois au niveau de la population malienne, mais aussi au niveau des officiels maliens, qui jugent à tort comme à raison que le rôle de la France n'est pas clair. Donc on est face à une situation d'impasse où les Maliens pensent qu'il n'y a pas de résultat et donc il est nécessaire de faire appel à Wagner, ce qui n'est pas forcément du goût donc de la France.
Est-ce que vous pensez que ce nouvel accroc dans les relations franco-maliennes va accélérer le retrait de la force Barkhane?
Bon, aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'on a atteint un niveau, en tout cas jamais atteint dans la brouille diplomatique entre Paris et Bamako. En tout cas, de mémoire de Maliens, je pense qu'on n'avait jamais atteint un tel niveau de brouille entre les deux pays. Et évidemment, tout est possible désormais parce que les Maliens ne semblent pas vouloir reculer quant à l'option donc de signer avec Wagner. Les autorités maliennes se trouvent aidées en cela par une opinion nationale très forte qui, à la fois les autorités, est pour l'option russe, mais aussi et qui se trouve être contre donc la France. On va dire qu'aujourd'hui, la position française a servi donc à cristalliser toute l'opinion nationale malienne derrière les autorités maliennes. Donc on peut dire aujourd'hui, tout peut arriver.
C'était l'ancien journaliste Abdoulaye Barry, consultant spécialisé sur les questions sécuritaires.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les relations entre l'Afrique et la France. Montpellier accueillera le 8 octobre le sommet France-Afrique qui, pour la première fois, ne verra pas la participation de chefs d'État du continent. Paris a plutôt invité des membres de la diaspora, des jeunes et de la société civile qui sont au cœur de la remise en cause des relations franco-africaines. Le sommet se tient aussi dans un contexte de tension entre Paris et des capitales comme Bamako ou Alger. La France est-elle en train de perdre du terrain en Afrique? Les relations peuvent-elles être réparées et comment? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Des sénateurs américains ont de nouveau promis mardi d'agir contre le pouvoir colossal de Facebook. Ils y sont vivement encouragés par une lanceuse d'alerte, une ancienne ingénieure du géant des réseaux sociaux, venue témoigner au Congrès des dommages sociétaux causés par son ancienne entreprise. Mais jusqu'à présent, les efforts pour mieux réguler les plateformes omniprésentes du groupe américain ont été aussi lents qu'enthousiastes. En Afrique, la question de l'utilisation des réseaux sociaux en général et de Facebook en particulier se pose avec acuité. Pour en parler, John Lydon s'est entretenu avec Jean-Baptiste Essissima, entrepreneur digital et fondateur de plusieurs plateformes afrocentrées. Il est à Ottawa, au Canada.
Le regard que je porte sur le phénomène des réseaux sociaux en Afrique, c'est que ces réseaux sociaux sont venus libérer en quelque sorte les Africains, et cela sur tous les aspects de leur vie. Donc tous les domaines, que ce soit l'art, la culture, le cinéma et même l'expression personnelle, tout le monde a commencé à utiliser les réseaux sociaux pour faire entendre sa voix. Et en 2020, le classement de l'Afrique par rapport au trafic à l'utilisation des réseaux sociaux était de 102%, contrairement à l'Amérique du Nord qui représentait que 2,46%.
L'arrivée de Facebook et d'autres plateformes a créé une nouvelle filière, celle des influenceuses et des influenceurs. Quel est leur rôle dans la société africaine aujourd'hui?
Pour dire vrai, je vais un peu être dur, hein. Ces catégories de personnes n'apportent vraiment pas grand-chose à l'Afrique parce qu'ils sont beaucoup plus dans la distraction et c'est là le but des réseaux sociaux, c'est-à-dire créer des conditions qui vont permettre aux utilisateurs d'être constamment connectés. Et c'est ce trafic-là qui crée la richesse pour les plateformes. C'est ce qui fait que tout le monde aujourd'hui se lève, devient influenceur. Mais concrètement, sur le terrain, ça n'apporte vraiment pas une valeur ajoutée.
Pourquoi les Africains n'utilisent pas les plateformes africaines, par exemple?
Vous savez, lorsque les applications et plateformes occidentales, je vais appeler ça ainsi, arrivent en Afrique, ces plateformes-là sont déjà en phase d'expansion. C'est-à-dire qu'ils entrent sur le marché en proposant déjà une valeur ajoutée bien plus forte. Or, les plateformes africaines sont en phase de démarrage. Et il est difficile pour elles de concurrencer ces plateformes occidentales qui sont en phase d'expansion et qui viennent déjà avec une valeur ajoutée bien plus forte. Si les Africains font preuve de patience et d'indulgence et que les promoteurs, les porteurs de projets technologiques en Afrique sont soutenus par le gouvernement, par les gouvernements, par les investisseurs, pour qu'ils puissent aussi élever la valeur ajoutée de leurs applications, je pense que les Africains vont commencer à les utiliser petit à petit. Parce que ces applications-là sont conçues pour être plus proches de leur réalité, sur tous les plans.
Jean-Baptiste Sissima, entrepreneur digital et fondateur de plusieurs plateformes afrocentrées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré hier mardi le président français Emmanuel Macron à Paris pour la première fois depuis la brouille entre Paris et Washington sur ce qu'il est convenu d'appeler la crise des sous-marins australiens. La correspondante diplomatique de la VOA, Cindy Sen, fait le point avec le récit d'Abdourahman Dia.
La raison initiale de la visite du secrétaire d'État Anthony Blinken à Paris était de co-présider une réunion ministérielle de l'OCDE sur le changement climatique et la sécurité. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré à l'occasion du 60e anniversaire de l'institution que l'OCDE est plus essentiel que jamais en tant que facteur de progrès économique dans les pays démocratiques confrontés à la menace des régimes autoritaires, une allusion voilée à la Chine.
Et donc, le travail de l'OCDE n'a jamais été aussi important. Nous devons prouver que notre approche peut améliorer la vie des gens dans nos pays et dans tous les pays, et d'une manière plus équitable qu'elle ne l'a été dans le passé.
Contrairement au dernier voyage de Blinken à Paris en juin, il n'y a pas eu de photo d'adieu cette fois, bien qu'il y ait eu une réunion imprévue avec le président français Emmanuel Macron. Les analystes disent que Paris considère l'annonce, le mois dernier, d'un accord de partage de technologies sous-marines américaines avec l'Australie comme un grave abus de confiance. Pierre Marcos, du Centre d'études stratégiques internationales.
Le manque de transparence et de coordination était pour les autorités françaises, comme je l'ai dit, un abus de confiance et totalement en contradiction avec notre notion, notre conception des alliances. Nous l'avons donc précisé en ne rappelant pas seulement l'ambassadeur de France aux États-Unis, ce qui était une étape historique pour signaler à quel point la France était en colère. Je pense que les responsables américains ont compris ce message et l'appel téléphonique entre le président Macron et Biden était une étape assez positive.
Selon des responsables du département d'État, Blinken a discuté de l'offensive du président Macron en faveur d'une politique de défense européenne commune. Macron est arrivé mardi soir à un sommet de l'Union européenne, affirmant qu'il croyait profondément en une Europe plus forte, capable de choisir et qui puisse travailler en étroite collaboration avec ses alliés historiques, alors que la déception persiste à Paris au sujet de son accord avec l'Australie tombé à l'eau. Marcos a déclaré que cette visite de Blinken doit être suivie d'une action concrète des États-Unis pour inclure la France dans la stratégie sécuritaire pour la région Indo-Pacifique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.